L'année vient de commencer et certainement chacun d'entre nous, nous nous disons que l'année dernière, on a fait certes des bons choix, mais on en a fait aussi des pas bons. Non? Et si on commençait cette année en faisant le meilleur des choix? Choisir une vie meilleure. La parole de Dieu nous invite à analyser ce qui peut finalement rendre notre vie meilleure. Malgré les efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire jour après jour pour nous donner une vie meilleure. On se rend compte que les sacrifices, le travail, la peine qu'on peut se donner ne rapportent pas toujours les résultats qu'on espère. On aime entendre les uns et les autres nous encourager au début d'année en disant mais bonne santé. Non? Mais parfois, ça s'arrête au 1er janvier. Le 2 janvier, déjà, il y a des problèmes qui arrivent et on se dit, c'est comme l'année dernière. Malgré tout ce qu'on a pu me dire, c'est comme l'année dernière. C'est les mêmes problèmes. Et parfois, les problèmes, ils n'ont pas donné non plus un jour de répit. Ça continue. C'est, on se traîne ça derrière comme quelque chose qui vient et qui nous écrase. Alors, j'aimerais vous encourager ce soir par ce texte qui nous amène à faire une analyse et en même temps, oui, certes, un choix. Le psaume 32 dira ceci: Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. C'est une partie, la première partie de ce psaume qui il nous invite à vivre finalement cette grâce d'être soulagé d'un poids trop lourd. Le psalmiste parle des transgressions qui sont enlevées, du péché qui est pardonné. Finalement, il y a quelque chose qui devient de plus en plus lourd dans la vie, jusqu'au point de nous écraser. Il y a des années de cela, je lisais une histoire qui rapportait une manière de torture qui était utilisée par les barbares. Quand quelqu'un enlevait la vie à une personne, on prenait le corps de la personne qui était décédée et on l'attachait sur la personne qui l'avait tuée. Et finalement, il devait se balader avec ce corps attaché sur lui-même. Alors déjà, je vous laisse imaginer rencontrer une personne qui ramène un corps mort sur ses épaules. Je pense que si même on le connaissait, on évite de le rencontrer et même de lui adresser la parole parce que finalement, il y a quelque chose qui est sur lui qui ne donne pas envie. Et avec le temps, ce qui se produisait dans ce corps qui n'avait plus de vie se transmettait à celui qui avait encore la vie et finalement le ramenait lui-même aussi à la mort. Quelque part, le péché qui agit dans la vie qui est la nôtre nous amène, ce péché qui amène à la mort, nous conduit à la mort. Et la parole de Dieu nous dit « Heureux celui dont les transgressions est enlevée ». Il y a un moyen de se débarrasser d'un poids inutile, d'un poids trop lourd. Nous ne sommes pas faits pour ramener le corps de quelqu'un ou qui que ce soit ou un fardeau qui puisse faire un certain nombre de kilos sur nos épaules. Combien c'est bon de se libérer des fardeaux. Peut-être ce soir, il y en a qui sont venus avec des fardeaux de nature différente. Alors, on ne veut pas garder forcément l'image que je viens de vous donner, même si elle est parlante. Des fois, les fardeaux, ils sont autres. Peuvent être des fardeaux affectifs, peuvent être des fardeaux liés à un ensemble de choses que finalement ça nous pèse lourd sur le cœur. On regarde aux jours qui passent, aux années qui passent et on se dit malheureusement le fardeau il demeure, il est toujours là. Il y a quelque temps en arrière, j'ai rencontré une personne qui avait vécu le rejet de la part de sa maman et finalement malgré les années, malgré qu'elle était devenue elle-même mère, ce fardeau continuait à peser sur son cœur. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui avait ouvert une blessure et cette blessure restait vive. Le fardeau qu'elle portait continuait à réouvrir cette blessure. Jusqu'au moment où finalement elle a déposé ce fardeau au pied du Seigneur. Et le Seigneur l'a libérée à ce moment-là. Elle a senti un poids tomber. La parole de Dieu nous dit « Heureux celui qui finalement se libère d'un fardeau. » Mais soyons conscients, parfois le fardeau est fait maison. Ça revient de mode, le fait maison. Hein. Dans la cuisine, non ? Dans le fait de construire ou retaper des choses, fait maison. Ça a de la valeur. Mais la parole de Dieu nous dit « Attention, parce que la faute est aussi fait maison. » Verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. » C'est tellement facile de placer la faute sur les autres. Ce n'est pas ma faute. Ah, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser, ce mot, quand j'étais petit. Chaque fois que ma mère, elle me prenait avec les mains dans le sac, « Mais non, ce n'est pas moi, maman, c'est... » Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. C'est quelque chose qui est inné en nous. On n'a pas besoin qu'on nous le montre, on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne. On tire toujours tout de suite en se disant si j'arrivais à me défiler de mes responsabilités, après où ça tombe, ça tombe. Mais la réalité, c'est avec Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'en effet, la faute, elle s'attache à nous et nous la portons jour après jour. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions finalement nous libérer. Il dit « Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » J'ai été interpellé par ces mots parce que finalement, on pourrait croire que le simple fait de vivre une forme religieuse pourrait nous libérer du fardeau. Une religion qui finalement pourrait... tromper notre cœur. Mais la parole de Dieu et Dieu lui-même ne nous parle pas de religion. Quelle qu'il soit la religion qu'on peut choisir, finalement, elle ne nous amène nulle part parce que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas une religion. Et ce n'est pas une religion qui va finalement nous libérer de ce qui pèse sur notre cœur parce que le problème, c'est que la religion en elle-même ou le fait de devenir des religieux pourrait nous cacher la réalité sur nous-mêmes. Le religieux peut cacher ses intentions et adopter la religion de la bonne attitude, tout en conservant quand même la haine et les intérêts déguisés. Parfois, ça arrive. Il se confesse dans le seul but d'être rétabli. Il ment par habitude et sa conscience ne le reprend plus. Bientôt, se trouvera dans un état de sommeil spirituel ou alors sous le poids de l'accusation et de la crainte, notamment, d'être découvert. Qui a déjà menti ? Quand on ment, quelle est la chose qu'on craint le plus ? Hein ? Alors, je prie les mamans de ne pas regarder leurs enfants et les enfants de ne pas regarder les mamans. Pas dire « Ah, mais toi aussi ». La réalité, c'est que ce qu'on craint le plus, c'est d'être découvert. Mais finalement, ça ne nous empêche pas de continuer. Un mensonge entraîne un autre. Et à la fin, on a tellement menti qu'on ne sait plus où elle est la vérité. Et on vit nous-mêmes dans un mensonge quotidien. L'homme religieux est piégé par sa propre piété, mais la fraude habite son cœur et son âme. Il peut faire plein de choses pour répondre peut-être à des modèles ou des coutumes religieux. À telle date, aller à tel endroit, à telle date, faire ceci. Mais pour autant, son cœur, il n'a pas changé. Il arrive même que certains dépriment et finalement, ils soient liés au plus profond de leur cœur, parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils se disent « Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourtant, j'ai fait ça et ça et ça. Tout ce que la religion m'a dit, je l'ai fait. Ça n'a pas marché. Je suis allé à tel endroit où on m'a dit que finalement, le problème aurait été résolu. Je suis reparti avec le même problème, plus la déception. Parce que finalement, ce n'est pas une question d'acte religieux, mais il est question de trouver la véritable solution, et la solution est celle qui nous permet finalement de revenir à Dieu, qui est le seul qui peut pardonner et effacer par Jésus-Christ la peine de nos péchés. Vous savez, quand la liste de nos erreurs est effacée, avez-vous déjà fait l'expérience de prendre un bout de papier, un stylo, et d'écrire toutes les erreurs que vous avez commises? Prenez une feuille A3, hein. Pas une petite feuille A4, hein. Parce que quand vous commencez, des fois, vous savez, du temps en temps, il existait ces ramettes de papier, le papier était attaché. Il y avait 500 feuilles. Hein, il y avait de quoi faire. Quand on commence à noter tout ce qu'on a fait, on peut finalement prendre conscience que malgré tous les moments de sursaut où on s'est dit « j'arrête, je ne le ferai plus », ça, plus jamais, on y est retombé et à plusieurs reprises. Alors vous pourriez dire « mais à quoi ça sert de l'écrire ?» Parce que tant que finalement nos yeux ne se posent pas sur nos erreurs, on ne les reconnaît pas. On pense que finalement nos erreurs ne sont pas si graves, tout le monde ne les voit plus, donc on oublie. Sauf que Dieu ne peut pas oublier comme ça parce que nous, on l'a décidé. Ce n'est pas parce que nous, on a décidé de mettre la poussière sous le tapis que Dieu ne voit pas que le tapis n'est pas tout plat. Hein. Ce n'est pas parce que nous décidons certaines choses que Dieu est obligé de nous suivre. Alors le texte, il nous encourage à apprendre à demander pardon, et alors nous connaîtrons une joie renouvelée. Et le Seigneur nous dira « heureux ». C'est lui finalement qui peut définir dans notre vie « heureux ». Pourquoi ? Parce que cette joie, elle sera visible, pas seulement dans notre cœur, mais aussi notre visage. Quelqu'un qui porte un fardeau. Vous avez vu quelqu'un qui porte un poids ? Combien de kilos vous pouvez porter ? Allez, dites-moi. 1 kilo ? Ça va ? Un peu plus ? Imaginez de porter un sac de 50 kilos et d'être parti comme ça pour aller au centre-ville. Quand vous arrivez au centre-ville, vous êtes de quelle couleur ? Rouge. Donc le fait que vous portiez un fardeau va être visible. Et parfois, il y a des fardeaux, ça fait des années qu'on les traîne. Comment voulons-nous que ne soit pas visible sur notre visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Et au moment où finalement on se libère du fardeau, premièrement on peut se redresser et finalement notre visage peut prendre une autre couleur. On est soulagé. On a pu traîner quelque chose qui est devenu un boulet dans notre vie. Mais attention, le silence peut être lourd à vivre et à porter. Le verset 3 et 4 nous disent « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été, condamnée, finalement, par notre silence. » Combien de fois il y a des choses qui sont gardées dans le silence ? Combien de familles aujourd'hui vivent et souffrent du non-dit ? Telle chose, on n'en parle pas. Il y a des années de cela, je me suis trouvé dans une entreprise à travailler et là, un homme qui avait déjà plus que 50 ans, il arrive et il me dit « j'ai besoin de te parler ». Il savait que je suis chrétien et il me dit « je ne vais pas bien, je viens de découvrir que celui que je pensais être mon père, il n'est pas mon père ». Et il dit, pendant toutes ces années, je ne comprenais pas pourquoi il faisait une différence entre moi et ma sœur. Alors je me suis dit que comme ma sœur, c'était une fille, le papa est toujours plus protecteur avec une fille. Mais finalement, je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait que pour ma sœur et pas pour moi. J'avais du mal à saisir pourquoi il y avait une telle différence. Et finalement, quand sa mère est décédée, son père a encore creusé la distance entre lui et son fils. Et malgré tout, ce fils essayait d'aller vers son père en se disant peut-être qu'avec le temps, il apprendra à m'aimer. Peut-être si j'en fais un peu plus pour mon père, il va finalement m'aimer. Peut-être si j'y arrive, si je réussis dans la vie, mon père va finalement m'aimer. Et un jour, puisqu'il était arrivé quand même au maximum qu'il pouvait atteindre dans sa vie, il était devenu responsable dans une entreprise, il gagnait bien sa vie, il avait réussi. Et il se dit, maintenant mon père, il ne peut pas faire autrement que de m'aimer. Et ce jour-là où il va voir son père pour lui dire, tu sais, papa, j'ai réussi. Ce père lui dit, tu n'es pas mon fils. Quoi que tu fasses, je ne pourrai jamais t'aimer. Ce que tu es pour moi, c'est la faute que ta mère a commise avec un autre. Voilà ce qu'il a découvert ce jour-là. Ça l'a détruit, ça l'a brisé. Le secret gardé pendant une vie. Et le découvrir après tant et tant d'années, finalement, c'était destructeur. Mais cet homme, finalement, il a donné son cœur au Seigneur. Et il a découvert qu'il y avait un père qui ne l'avait jamais abandonné. Un père qui réclamait sa paternité. Dieu. Parce que quel qu'il soit le cheminement qui est le nôtre, Dieu nous réclame pour que nous soyons ses enfants. Quelle paix a pu finalement vivre le cœur de cet homme? Et vous savez quoi? Au point pas seulement de ne plus porter de jugement vis-à-vis du manque d'amour de cet homme qui avait joué, entre guillemets, un rôle de père, mais de tout faire pour prendre soin de lui jusqu'à la fin de ses jours. En disant, c'est pas grave s'il ne m'aime pas, le Seigneur m'aime. Et a déversé sur cet homme l'amour que Dieu déversait dans son cœur. Un changement de vie. Le silence qui peut finalement nous condamner et parfois par crainte de dire les choses. Mais c'est nous-mêmes les geôliers de notre cœur et de notre vie. Le psalmiste dira, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Au verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Amen. Dans le psaume 38, le verset 5 à 9, le psalmiste dira aussi ceci, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, accablé à l'extrême. Tous les jours, je marche dans la tristesse car mes reins sont pleins d'une brûlure. Et il n'y a rien d'intact dans ma chair. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. On pourrait dire que là, c'est une radiographie de celui qui, malheureusement, continue à vivre sous le fardeau. Mais le psalmiste dira, « Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché parce que finalement, je t'ai fait connaître mon péché. Finalement, je t'ai révélé mon cœur. » Un jour, je suis intervenu dans une maison de retraite et dans cette maison de retraite, il y avait plusieurs personnes qui avaient un vécu de religieux. Entre autres, celui qui s'occupait de la cathédrale de Reims. Un prêtre très bien connu, très bien coté. Et le Seigneur avait conduit ce jour-là que je parle de cette femme qui était courbée. Cette femme qui ne pouvait voir que les pieds des gens. Et que pour voir le visage, était obligé de se mettre sur le côté, parce que faites l'essai, vous verrez, il n'y a pas d'autre moyen. Cette femme que la vie avait mise dans une position difficile, elle avait vécu ça pendant des années. Et finalement, elle se trouve là où Jésus se trouve. Cette femme, elle aurait pu se dire, finalement, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, je prends un autre chemin. Mais non, cette femme, elle voulait, elle pensait, elle croyait, elle a mis sa confiance en Dieu. Et malgré tout, elle a avancé. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus vit cette femme courbée. Sauf erreur de ma part, depuis 18 ans. Et là, le Seigneur la redresse. Waouh ! Je me suis dit un instant, j'ai imaginé le bruit du dos, ring, qui se redresse, je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui... Et j'ai partagé sur ce texte de tout mon cœur, et à la fin, je vais m'asseoir, et cet homme vient s'asseoir à côté de moi, et me dit, vous savez, monsieur le pasteur, il dit ici, des gens courbés, il y en a beaucoup. Et quelques-uns sont venus parler en disant, voilà, je pensais que, mais finalement, je ne suis pas certain de mon salut. J'ai servi en pensant servir Dieu, mais j'ai servi une religion, mais finalement, je ne me suis jamais donné à Dieu. J'ai peur de mourir et de finalement jamais connaître la présence de Dieu. Moi, je me dis, béni soit Dieu, parce que malgré tout, même peut-être à la fin, à l'aube de notre vie, Dieu encore met tout en œuvre pour nous chercher, pour nous dire, moi, je veux que tu sois mon enfant. Je désire que tu sois sauvé. Mais il est question pour nous, finalement, de nous débarrasser en disant tout à Dieu, finalement, en ouvrant notre cœur à Dieu. Le mot « connaître » veut dire « déclarer ». Il est question que jusque-là, on a couvert, on a occulté. Mais finalement, on les met devant Dieu, on accepte. Et il est question pour nous de marcher, vivre autrement. Alors, il y a un choix à faire. Marcher, vivre comme un esclave ou comme un homme libre? Eh bien, la liberté, c'est un choix. Jésus dira au peuple qui est là, si vous connaissez la vérité, vous serez affranchis, vous serez vraiment libres. Oh, mais nous, on a Abraham pour père. On n'a jamais été esclaves. Ils avaient oublié 400 ans d'Égypte. Ils avaient oublié la domination romaine. Ils avaient oublié beaucoup de choses. Et nous, parfois, on a tendance à oublier, négliger, voire occulter ce qui nous dérange. Mais la réalité, c'est que la vérité, celle de Christ, celle de Dieu, nous rend libres. Il est possible de vivre autrement. Au verset 6, il nous est dit qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris, de délivrance, à nouveau, pause. C'est bien ce texte, il y a des moments où le psalmiste dit, arrête-toi une seconde, réfléchis, fais une pause, va pas trop vite. Des fois, on lit en travers. Et on dit, t'as compris? Non. T'as mémorisé? Pas du tout. Pourquoi? Parce que t'as pas pris le temps de t'arrêter. Il est question pour nous de vivre une vie empreinte d'espérance et de grâce. Qui veut vivre une année d'espérance et de grâce? Ah, ben c'est un choix. Et le choix est de dire, Seigneur, je veux vivre avec toi, être fidèle et prier au temps convenable. Pas attendre le temps des problèmes pour prier. Parce que souvent, on prie quand on a un problème. On a pris l'habitude de faire quand on va chez le mécano quand on a une panne. On va chez le médecin quand on ne va pas bien. Non? Est-ce que quelqu'un d'entre vous passe voir son médecin pour lui demander comment il va? Non? Vous allez voir votre mécano en lui disant, écoute, je t'ai ramené ma voiture juste pour que tu la regardes de loin? Non? Vous y allez s'il y a une raison. Mais la relation que Dieu veut avec nous, ce n'est pas une relation où on va à lui que quand on a un problème, que quand on a un besoin. Parce que ça, ce n'est pas la relation d'un fils avec un père. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être de ceux qui finalement s'approchent de lui. Et alors, oui, même si des grandes eaux débordaient, alors oui, même s'il y avait des situations difficiles, Dieu est pour nous notre abri. Et alors là, je vis dans la paix, dans la grâce. Je n'ai pas à craindre. Je suis tranquille. Hein ? Un jour, je vois un homme s'arrêter devant l'entrée de l'église. Belle voiture. Ma femme, elle était sur la porte d'entrée du bureau et me dit, il y a une belle voiture qui vient s'arrêter devant l'église. Je dis, bon, ok. Il dit, oh, ça fume, ça brûle. Et en effet, le monsieur s'est arrêté parce que sa voiture, elle a commencé à prendre feu. Une belle voiture, toute neuve. Je ne vous dis pas le prix. Et le monsieur lui descend de la voiture. Il se pose contre le mur et il regarde sa voiture brûler. Alors que sa femme, elle reste dans la voiture, elle appelle le garagiste en lui disant « Ma voiture brûle, je veux une voiture tout de suite parce que je dois aller faire mes courses. » Alors, en voyant la scène, je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Déjà, j'ai dit « Madame, ça serait bien peut-être que vous descendiez avant de faire partie du rôti. » Hein ? Et le monsieur lui disait « Mais qu'est-ce que tu t'inquiètes ? On est assuré. » On est assuré, te prends pas la tête. Sors de là. Sors de là. Ce qui nous permet de vivre sous la grâce et la paix, c'est finalement d'avoir cette assurance en Dieu qui est le Dieu qui accorde la grâce et la paix. Et quelle qu'il soit la difficulté, on n'a pas à craindre de dire « Oh là là !» Comment je vais faire ? Non, non, non. Je suis tranquille. J'ai l'assurance et l'assurance est en Jésus-Christ. Une vie pour apprendre à vivre auprès de celui qui donne la vie. À partir du verset 8 au verset 11, je vous rassure, il dira ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le texte appelle juste. Il n'est pas juste celui qui se croit juste, il est juste celui qui est justifié par celui qui est juste. Je m'explique. Je peux considérer que je suis juste et malgré tout ce que je peux considérer, penser de moi-même, je suis injuste et orgueilleux. Non ? Mais quand celui qui n'a commis aucune faute, aucune erreur, lui, parce qu'il a changé ma vie, finalement me justifie, règle la note de ma vie, efface l'ardoise de mon existence et de mon péché, enlève le fardeau qui pesait sur moi et qui finalement me permet de me tenir droit devant lui, c'est lui qui peut dire juste. Et c'est à ce moment-là finalement que je vis autre chose. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous réjouir en l'Éternel. Le fait de pouvoir se tenir droit devant Dieu. Si le Seigneur devait appeler notre âme ce soir, quelle serait la condition qui est la nôtre en nous présentant devant Dieu ? Celui d'injuste ou celui de quelqu'un qui s'est dit « j'ai encore le temps » ? Celui de quelqu'un qui a déjà fait le choix ou celui de quelqu'un qui s'est dit « ben, je ne suis pas trop mal ». Je ne suis pas si mauvais, regarde les autres. Parce que le problème, c'est que quand on sera devant le Seigneur, le seul exemple et le seul modèle de comparaison, ce n'est pas les autres, c'est Jésus. Et finalement, si Jésus n'est pas celui qui dit, lui, il a été justifié par mon sang à la croix, tu peux faire et dire tout ce que tu veux, tu es condamnable. Et si finalement nous prenions la décision de dire, Seigneur, je veux choisir une vie meilleure. Alors vous savez, ce n'est pas la peur qui doit nous approcher de Dieu. Si on s'approche de Dieu par peur de mourir, on n'a rien compris. C'est l'amour de Dieu qui doit nous attirer à lui. Si je m'approche de Dieu, c'est parce que finalement j'ai compris qu'il m'aime et qu'il m'a aimé au point de donner son fils à la croix. Qu'il ne veut pas regarder à mes défauts, à mes erreurs, à tout ce que j'ai pu faire de mauvais, mais que finalement, il a effacé ça de ma vie. Le Seigneur voudrait ce soir, pour chacun de nous, que nous ayons fait le bon choix. Et le choix, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos familles, ce n'est pas les autres qui doivent le faire pour nous. C'est un choix personnel. Alors je voudrais nous inviter à fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais demander à